Véroa Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mardi 5 septembre 2023. Dans le nord du Burkina Faso, 53 soldats et supplétifs de l'armée ont été tués dans une attaque de djihadistes présumés. Au Niger, des discussions ont lieu entre des militaires français et des officiers nigériens sur un éventuel retrait de certains éléments militaires français déployés dans le pays. En Guinée, la junte interdit toute manifestation ce mardi, jour anniversaire de la prise de pouvoir par les militaires.
Aujourd'hui, on assiste quand même à un calmement des jeux parce que le CNRD a su au moins canaliser un peu les politiciens. Aujourd'hui, il y a moins de manifestations et il y a moins de dégâts.
Reportage sur l'an 2 de la transition guinéenne à suivre avec notre correspondant à Conakry. Au sommet de Nairobi, les participants appellent à alléger la dette des pays africains face aux exigences climatiques. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, au moins 53 personnes ont été tuées hier lundi à Koumbri, dans la province du Yatenga, située dans la région du Nord. Selon l'armée, il s'agit d'une unité du 12e régiment d'infanterie commando qui a été visée dans cette attaque d'hommes armés. Une des attaques d'envergure après les attaques de Déhou Partiga en février dernier et Karma en avril dernier de Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Parmi les 53 personnes tuées, on dénombre 17 militaires et 36 supplétifs de l'armée, communément appelée ici VDP, des volontaires pour la défense de la patrie. Cette unité précurseur du 12e régiment d'infanterie commando, selon l'armée, était dans une action offensive audacieuse pour permettre la réinstallation des populations qui ont quitté la zone depuis plus de 2 ans. Au cours de sa progression, cette unité a connu plusieurs incidents et des tirs de harcèlement qu'elle a réussi à surmonter avec détermination jusqu'à destination. C'est pendant la phase de contrôle de la dite zone que les éléments précurseurs ont eu un contact avec des hommes armés lundi matin. Les combats ont été intenses, précise l'armée. L'attaque a été repoussée. Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés. Mais l'état-major déplore la mort de 53 combattants. Il précise aussi qu'une trentaine de personnes ont été blessées. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
L'armée française est en pourparlers avec l'armée nigérienne sur le retrait de certains soldats français. Les relations entre la France et le Niger se sont détériorées lorsque Paris a ignoré l'ordre donné par la junte à son ambassadeur de quitter le pays, Alexandre Nolognon.
Les discussions sur le retrait de certains éléments militaires ont commencé, a déclaré une source du ministère français de la Défense. Les armées françaises n'appuient plus les militaires nigériens sur le terrain. La question du maintien de certaines de nos forces se pose, d'après Paris, en particulier les unités chargées de l'entretien du matériel qui n'est pas utilisé sur place depuis plus d'un mois, comme les drones, les hélicoptères ou les avions de chasse. Le premier ministre nigérien Ali Mahamat Lamine-Zeyn a déclaré lundi que des contacts sont en cours en vue d'un départ très rapide des troupes françaises. Le 3 août dernier, les poutistes ont dénoncé plusieurs accords de coopération militaire avec la France, dont l'un prévoyait une période de préavis d'un mois qui a expiré dimanche. Après leur retrait du Mali et du Burkina Faso, quelques 1500 soldats français sont toujours au Niger, dans le cadre de la lutte contre les djihadistes au Sahel.
Au Nigeria, la justice va se prononcer demain mercredi sur la demande de l'opposition d'annuler la victoire électorale du président Bola Ahmed Tinubu en février, indique une source judiciaire, ancien gouverneur de Lagos. Bola Ahmed Tinubu a remporté l'élection du 25 février lors d'un scrutin très contesté selon les principales formations d'opposition. Le Parti démocratique du peuple, PDP, et le Parti travailliste, le vote a été entaché de fraude et d'irrégularité. Quel que soit le résultat, il y a encore la possibilité de faire appel auprès de la Cour suprême. En Guinée, la junte a interdit toute manifestation aujourd'hui, deuxième anniversaire de sa prise de pouvoir, y compris celle prévue par l'opposition pour réclamer un retour des civils à la tête du pays. Yacouba Ouedraogo.
Le ministère de l'administration du territoire a rappelé l'interdiction formelle des mouvements de soutien et des manifestations sur la voie publique décrétée en mai 2022. Il dit mettre en garde toutes les personnes qui enfreindraient cette mesure, prise selon lui pour préserver la tranquillité publique. Les militaires ont consenti à rendre le pouvoir à des civils élus d'ici fin 2024, le temps, selon eux, de mener de profondes réformes. Les forces vives, un autre collectif de partis et organisations, a appelé à une marche pacifique pour cet anniversaire. Elle dénonce ce qu'elle qualifie de gestion autoritaire et unilatérale des affaires, une volonté de confiscation du pouvoir et l'enrichissement effréné de la classe dirigeante, selon elle. Il n'existe pas encore de projet de constitution, ni de code électoral, ni d'organe de gestion des élections, ni d'opérateur technique, ni de fichier électoral, ni de budget réaliste des élections, disent les forces vives.
Le président de transition au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, a rencontré dans la nuit l'ex-candidat de la principale plateforme de l'opposition à la présidentielle du 26 août. La rencontre s'est déroulée au domicile de M. Albert Ondosa, a précisé Guy Pamphilemba, responsable de la communication de l'ex-candidat, sans livrer de détails sur le contenu de leur discussion. Le nouvel homme fort du Gabon a par ailleurs reçu ce mardi le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, désigné par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, facilitateur du processus politique après le coup d'État contre Ali Bongo Ondimba. La CEAC l'a chargé d'engager des pourparlers avec tous les acteurs gabonais et les partenaires du pays pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. L'organisation a suspendu lundi le Gabon et ordonné le transfert immédiat de son siège de Libreville à Malabo, en Guinée équatoriale. Le procès de 6 militaires congolais, dont 2 officiers supérieurs arrêtés après la répression d'une manifestation ayant fait une cinquantaine de morts le 30 août, a débuté ce mardi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les accusés sont 2 officiers de la garde républicaine, ainsi que 4 soldats de 2e classe jugés en flagrance. Comparution immédiate, ils sont poursuivis notamment pour crimes contre l'humanité, violation des consignes, a déclaré en début d'audience l'auditeur supérieur du Nord Kivu, le colonel Michel Cachil, représentant du ministère public.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Kenya, des chefs d'État et de gouvernement, des hommes et des femmes d'affaires du continent et d'ailleurs sont réunis à Nairobi pour un sommet sur le climat. Le point avec Claire Morin-Djibou.
Les Émirats arabes unis, qui vont accueillir la prochaine conférence sur le climat, ont promis 4,5 milliards de dollars d'investissement pour les énergies propres en Afrique. Dans son discours, Antonio Guterres a appelé les dirigeants du G20 réunis ce week-end en Inde à assumer leurs responsabilités dans la lutte contre le changement climatique. Le président kényan William Ruto a qualifié l'Afrique de puissance au potentiel inexploité. Malgré sa richesse en ressources naturelles, seulement 3% des investissements énergétiques dans le monde sont actuellement réalisés sur le continent africain. Les tensions entre États-Unis et Chine, les deux plus grands pollueurs au monde, inquiètent avant la COP28. L'émissaire américain pour le climat, John Kerry, a dit espérer que les deux pays vont se rapprocher face à la menace universelle du réchauffement climatique. Cette réunion lance 4 mois de négociations qui vont culminer avec une bataille annoncée sur la fin des énergies fossiles lors de la COP28 à Dubaï de fin novembre à début décembre.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a prévu de se rendre ce mois en Russie pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine et discuter avec celui-ci de la possibilité que Pyongyang fournisse des armes à Moscou, qui a exprimé sa volonté de renforcer ses liens militaires avec la Corée du Nord. L'annonce de la possible visite de Kim Jong-un en Russie intervient alors que les États-Unis ont exprimé récemment leurs préoccupations à propos du rapprochement entre Pyongyang et Moscou sur le plan militaire, tandis que le ministre russe de la Défense indiquait que les deux pays discutaient de l'éventualité d'organiser des exercices militaires conjoints. Les dirigeants de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, réunis en sommet ce mardi à Jakarta, ont condamné fermement les violences contre les civils en Birmanie en reconnaissant que leur plan de paix pour résoudre la crise birmane était dans l'impasse. Les dirigeants du groupe ont par ailleurs décidé que la présidence de l'ASEAN serait retirée en 2026 à la junte et attribuée aux Philippines. Jakarta accueillera en parallèle jeudi le sommet de l'Asie de l'Est, réunissant 18 pays dont les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Inde et la Russie. Mais les poids lourds du groupe, Joe Biden, le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine seront absents. La vice-présidente américaine Kamala Harris, le premier ministre chinois Li Qiang, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov participeront à la réunion. Et puis la première dame des États-Unis, Jill Biden, a été testée positive au COVID-19, a annoncé la Maison-Blanche, précisant que le président Joe Biden a quant à lui été testé négatif. La première dame, âgée de 72 ans, ne présente que de légers symptômes, a indiqué son bureau, et restera dans la maison du couple dans le Delaware. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique.
présent, la minute écho avec Claire Morin-Djibou.
Au Nigeria, Lagos a désormais un service de métro électrique. Le Lagos Blue Light Rail, conçu pour transporter 175 000 passagers par jour, est entré en service hier. Le gouverneur de l'État de Lagos, M. Babajide Sanwo-Olu, premier passager du train, a assuré aux usagers de la sécurité maximale à bord. Ce service ferroviaire a été mis en place pour tenter de soulager le trafic dense de Lagos. Le Bénin et la Chine ont signé 13 accords de coopération économique le 1er septembre lors de la visite du président Patrice Talon à Pékin. Ecofin précise que Cotonou et Pékin ont élevé leurs relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique. Les échanges commerciaux entre les deux pays sont estimés à 1,95 milliard de dollars en 2022, en hausse de 33,7% par rapport à 2021, selon l'ambassade de Chine au Bénin. Les prix du pétrole ont monté après l'annonce de la prolongation de la réduction de production de l'Arabie Saoudite et des exportations de la Russie jusqu'à fin 2023, culminant à leur plus haut niveau depuis novembre. Les deux références mondiales du brut ont touché leur prix le plus élevé depuis novembre, après les annonces de Riyad et de Moscou d'une prolongation de leur réduction de production et d'exportation de brut.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Des nouvelles de la Coupe du Monde de basketball pour commencer. Les États-Unis étouffent l'Italie en quart de finale.
Oui, Team USA a axifié l'Italie, très maladroite puis résignée, 100-63, battue pour la première fois du tournoi dimanche par les Lituaniens. Les Américains ont cette fois effectué un début de match tôt nutriant, suffisant pour passer l'obstacle des quarts de finale sur lesquels ils avaient buté au Mondial 2019. Les États-Unis affronteront vendredi en demi-finale l'Allemagne ou la Lettonie qui s'opposent demain. Dans le second quart de finale, la Serbie a martyrisé la Lituanie 87-68 pour rejoindre le dernier carré. Pour sa première demi-finale internationale depuis 2017 et une médaille d'argent à l'Euro, elle affrontera vendredi la Slovénie ou le Canada qui se disputent demain la dernière place dans le dernier carré.
Tennis avec l'US Open, début des quarts de finale aujourd'hui.
Chez les dames, l'américaine Coco Gauff affronte la lettonne Jelena Ostapenko qui a créé la surprise en éliminant hier la polonaise numéro 1 mondiale Iga Świątek. Conséquence, Świątek va perdre au profit de la Bélarusse Arina Zabalenka la place de numéro 1. Ostapenko a remporté Roland Garros en 2017, atteint les demi-finales à Wimbledon en 2018, les quarts à l'Open d'Australie cette année, mais n'avait jamais dépassé le troisième tour à Flushing Meadows. Chez les hommes, le choc américano-américain entre Frances Tiafoe et Ben Shelton a été programmé en clôture cet après-midi. Bien avant, l'autre américain Taylor Fritz fera face au Serbe Novak Djokovic.
On va parler des transferts. Napalis Mendy s'engage avec Lens.
Le milieu international sénégalais, libre de tout contrat, s'est engagé avec le RC Lens pour deux saisons. L'annonce est faite par le club vice-champion de France dans un communiqué. Napalis Mendy, 31 ans, formé à Monaco où il a débuté en professionnel, a explosé chez le voisin l'OGC Nice avant d'être transféré à Leicester avec lequel il a été relégué en fin de saison dernière. Ce milieu défensif est un renfort de poids dans l'entrejeu des 100 et or qui souffrent en ce début de saison depuis le départ de leur capitaine emblématique ivoirien Seko Fofana, transféré cet été au club saoudien d'Al Nassr. Milieu expérimenté, Mendy compte 27 sélections avec les Lions de la Teranga, sacré champion d'Afrique en 2022 et totalise plus de 250 matchs en Ligue 1 et Première Ligue.
Le sélectionneur de l'équipe féminine d'Espagne a été limogé.
José Vilda, proche de Luis Rubiales, a été démis de ses fonctions par la Fédération espagnole. Ce limogeage a été présenté par l'Instance nationale du foot espagnol comme l'une des premières mesures de restauration consécutive à l'affaire Rubiales qui a plongé le foot espagnol dans le chaos. Président désormais suspendu de la Fédération, Luis Rubiales a provoqué l'indignation internationale en embrassant sur la bouche par surprise la joueuse Jenny Hermoso après le sacre de la Roja à la Coupe du Monde le 20 août.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En Guinée, le 5 septembre marque l'avènement des militaires au pouvoir après un coup d'État qui a mis fin au troisième mandat d'Alpha Condé. C'est un anniversaire sur fond de crise sociopolitique. À Conakry, on s'interroge encore sur le retour à l'ordre constitutionnel. Le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
La Guinée va de mieux en mieux, des mots du ministre secrétaire général de la présidence de la République sur un plateau de télé dédié au bilan du CNRD. Mais loin des caméras, les réactions des Guinéens sont plutôt mitigées.
Aujourd'hui, on assiste quand même à un calmement des yeux parce que le CNRD a su au moins canaliser un peu les politiciens. Aujourd'hui, il y a moins de manifestations et il y a moins de dégâts.
Vous savez, avant la fin du régime d'Alpha, je veux dire du troisième mandat, les libertés publiques, les manifestations, tout était interdit. Il y avait beaucoup de morts, il n'y avait pas d'espace politique, en tout cas permettant même aux leaders de s'expliquer. Mais deux ans après, on avait du mal à comprendre que toutes ces vieilles pratiques pouvaient reprendre. Et même encore pire, parce que quand vous prenez secteur par secteur sur le plan politique.
Et en un temps record, en deux ans, ce que les militaires ont fait, les autres régimes ne l'ont pas fait. Et vous-même, vous le remarquez, c'est visible. Et beaucoup de points critiques, parce qu'il était pratiquement impossible de circuler à Conakry, il y avait des nids d'éléphants, la route était dégradée, vous n'avez pas l'idée d'être dans une capitale. Aujourd'hui, allez-y.
La Guinée et la CEDEAO ont conclu une durée de transition de 24 mois, mais le processus ne rassure pas tout le monde, explique Kabiné Fofana, analyste politique.
On voit aujourd'hui qu'il y a une difficulté à rassurer quant à même au contenu de la transition. Mais vous allez mobiliser des fonds pour que qui parte aux élections, lorsque les acteurs, non des moindres et les plus importants, d'ailleurs il faut oser le dire, ne partagent pas la façon dont la transition est menée. Vous avez la CEDEAO qui est débutative et qui se dit, il faut aller à plus d'inclusion. Vous avez la communauté internationale qui ne viendra pas sur un processus quand il n'est pas validé par la CEDEAO. Malheureusement, c'est à l'effet du principe de subsidiarité. Je pense que pour qu'on ait un processus électoral ouvert, crédible et sincère et dont les résultats seront acceptés par tous, il faut d'abord asseoir la conviction et la confiance du processus à ce niveau-là.
Il faut 600 millions de dollars pour financer les 10 points de la transition, des chiffres annoncés par le gouvernement guinéen, le gouvernement qui n'a pu mobiliser qu'au moins de 20% du budget. Zakaria Camara, pour VOA Afrique, Conakry.
VOA Afrique, en direct de Washington.
La rentrée scolaire est effective en République démocratique du Congo depuis hier lundi 4 septembre, mais pas dans le territoire de Rutshuru, en province du Nord Kivu, occupée par les rebelles du M23. Dans plusieurs écoles, aucun enfant ne s'est présenté, alors que dans d'autres, l'effectif ne dépasse pas 10 élèves. Reportage de Zanem Netizaidi, notre correspondant dans la région.
À l'Institut Weshi, une école conventionnée protestante de la cité de Rutshuru, 9 élèves seulement se sont présentés lundi 4 septembre et 7 ce mardi. Vincent Kabori est parmi ceux qui se sont présentés à l'école.
J'ai été à l'école malgré qu'on manque d'uniforme, les outils à utiliser à l'école. On demande seulement l'aide.
Des enseignants se sont présentés ces jours, mais comme l'a dit Palou Kumatabishi, aucun cours n'a été dispensé, faute d'effectifs.
Comment vous allez vous tenir devant un élève alors que c'est une classe de 50-60 élèves, alors ça devient un problème parce que vous trouvez qu'avancer avec la matière, pas que les autres ne sont pas là, c'est tellement un grand problème.
Le préfet des études de l'école, Augustin Louis Kyo, demande aux parents d'amener leurs enfants à l'école malgré leurs craintes.
Il y a les élèves qui ont quand même répondu au rendez-vous, les enseignants sont tous là, tels que vous me voyez, donc le bureau est là. Pensons que les parents ne doivent pas se cramponner parce que nous avions même accepté pour aujourd'hui, même un enfant qui n'a pas d'uniforme.
Entre insécurité et pauvreté dans les territoires de Rutshuru, occupés à grande partie par les rebelles du M23, Innocent Sengiyumba, un parent, reste pessimiste sur le déroulement de l'année scolaire entière.
Je ne suis pas sûr que cette rentrée scolaire soit effective. On nous a sensibilisés par des communiqués à la radio et dans des églises pour envoyer les enfants à l'école, mais nous doutons qu'après avoir dépensé nos moyens en achetant des fournitures scolaires, la guerre puisse éclater et que tous ces efforts reviennent. Bien, on est. primaire.
Dans une communication faite par le ministre congolais de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, la soirée d'hier, la majorité des enfants de Rutshuru seront encadrés depuis les camps de déplacés où ils se retrouvent.
Il y a eu beaucoup de déplacés dans ces coins. Si je vous dis par exemple à Rutshuru, plus de 250 écoles ont été fermées. Enseignants et élèves se sont déplacés vers Goma. La solution trouvée, c'est créer des écoles détentes sur place dans les camps de déplacés.
Pendant les vacances, les rebelles du M23 avaient multiplié les appels aux parents et responsables des écoles pour la reprise des activités scolaires dans les zones sous leur contrôle. Zanem Netizaïdi pour VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
Au Sénégal, le secteur de la pêche traverse une grave crise avec une raréfaction des ressources halieutiques qui appauvrit les pêcheurs, qui d'après certains favorisent l'émigration clandestine. De Fastboy à Soumbédioun sur la côte de Caroise, les pêcheurs et les vendeurs, qui sont les principaux acteurs de la pêche artisanale, confient leur désarroi à VOA Afrique. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Les jeunes qui vivent de la mer n'ont pas d'espoir quand ils voient comment les vieux ont fini. C'est pourquoi ils prennent la mer.
Comme ça ne sec, beaucoup de pêcheurs de Fastboy estiment que la raréfaction de la ressource halieutique est un facteur favorisant l'immigration clandestine. Car même si les pêcheurs s'en défendent, beaucoup d'entre eux sont contraints de rentabiliser leur investissement en se tournant vers la mer pour rejoindre l'Europe.
Quand tu achètes l'appât à 10 000 francs, le gasoil à 15 000 francs, c'est déjà 25 000 francs CFA, mais quand tu vas en mer, le produit que tu ramènes ne te rapporte même pas 5 000 francs. Un échec ne peut pas être plus grand. Maintenant, il n'y a plus de poissons sur les côtes. Il faut aller jusqu'à 30 km pour espérer trouver les rares poissons parce que les bateaux étrangers raflent les poissons par centaines de tonnes.
Sur la plage de Soumbédioun à Dakar, cette raréfaction de la ressource halieutique a poussé des pêcheurs comme Adama Cham à rester à quai. Une situation avec des conséquences sociales dramatiques.
Si vous n'allez pas en mer, vous ne donnez pas le départ. C'est ça, vous ne payez pas vos loyers, le courant, l'eau, vous ne le payez pas. Parce que vous n'allez pas aller en mer pour attraper du poisson. Donc, c'est difficile actuellement qu'on vive.
Cette détresse des pêcheurs est vivement ressentie dans les quais et les marchés aux poissons, où les marailleurs comme Ablaye Diop ne savent plus où donner de la tête.
Il n'y a pas assez de produits. Les rares poissons qui arrivent sont chers. Ce qu'on achetait à 1000 francs coûte désormais 2000 francs CFA. Et c'est une vraie bataille car on s'arrache, ce qui fait flamber les prix. À cela s'ajoute l'achat de glace pour la conservation. Il y a énormément de problèmes. C'est une période vraiment difficile pour nous, mais nous n'avons pas le choix.
Sur les plages sénégalaises, le poisson se fait de plus en plus rare. Les pêcheurs, de moins en moins nombreux à aller en mer, reviennent souvent avec peu ou pas de poisson. Une situation qui pousse beaucoup de jeunes pêcheurs à quitter les quais pour tenter l'aventure de l'émigration irrégulière via la mer. Une mer qui peine à nourrir son homme et où même les chats peinent à trouver des restes pour s'alimenter. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
Alexandrine Colonio avec vous cette semaine dans Washington Forum. Le Kenya accueille un sommet dit historique sur le climat visant à faire de l'Afrique une puissance émergente en matière de croissance verte. Le président William Ruto, hôte de la rencontre, souhaite que ce sommet permette au continent de trouver un langage commun sur le développement et le climat afin de proposer des solutions africaines à la COP28. Comment l'Afrique peut-elle jouer un rôle décisif dans la lutte contre le changement climatique tout en favorisant une croissance économique verte? Rendez-vous ce jeudi avec nos invités dans Washington Forum à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Les États-Unis participent au sommet africain à Nairobi pour le climat. Le président kényan William Ruto a déclaré hier que l'Afrique possède une opportunité unique de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, mais il a noté que cela va nécessiter d'importants investissements. Pour savoir les engagements que les États-Unis sont prêts à prendre pour soutenir l'Afrique, Eric Manirakiza a joint à Nairobi Joanne Schmonsis, porte-parole de langue française du département d'État et directeur du Centre médiatique régional pour l'Afrique.
Bon, il est vrai que le président Ruto a exprimé l'intérêt de son pays à participer dans la production des bas pays pour aider, faciliter la transition vers une énergie propre. L'Afrique est en fait un partenaire clé pour les États-Unis et pour le monde entier dans ce domaine. Pour une chose, c'est un marché de plus d'un milliard d'habitants avec un taux de croissance économique supérieur à n'importe quelle autre région au monde. Alors, la région est indispensable pour gérer la crise climatique qu'on vit maintenant. Et c'est pour ça que les États-Unis font des annonces importantes ici à Nairobi et ont montré son engagement pour faire un partenariat avec le continent.
Vous soulignez ce partenariat clé avec l'Afrique. Pouvez-vous expliquer en quoi les États-Unis vont aider l'Afrique dans la réalisation de leurs propres objectifs climatiques?
Bon, les accords récents sont un signe de notre engagement avec l'Afrique. Par exemple, juste au mois de janvier 2023, on a signé un accord de protocole entre les États-Unis et la République démocratique du Congo et de la Zambie pour prendre la valeur des batteries pour les véhicules électriques. Et c'est aussi un secteur où le président Ruto a exprimé son intérêt à participer aussi. La République démocratique du Congo est, produit plus de 70% du cobalt mondial et la Zambie est le sixième producteur de cuivre et deuxième producteur de cobalt en Afrique. Ces ressources sont essentielles pour la transition vers une énergie propre. Et c'est pour ça que ça peut être la contribution du continent.
Ces programmes spécifiques ou initiatives bilatérales dont vous mentionnez et que les États-Unis essaient de mettre en place, est-ce que vous pensez que ça va renforcer la résilience climatique des pays africains tout en favorisant le développement durable?
Parmi les thèmes clés pour les États-Unis pour ce sommet sont la résilience et l'adaptation. Ce sont des thèmes très importants, essentiels en fait, pour le bien-être des peuples africains dans l'avenir, pendant qu'on fait face à la crise climatique.
Joanne Schmonsis, porte-parole de langue française du département d'État et en même temps directeur du Centre médiatique régional pour l'Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Stop playing with them, Riot. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink belt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a can. Like Jazzy, Stacey, Nicki. All of the Barbies is pretty. Damn. All of the Barbies is bad. It's girls, and we ain't playing bad. Red, what do you think me when I get bad? I'm in L.A., Rodeo Drive. I'm in New York, Madison Ave. I'm a Barbie girl. Pink Barbie dream house. The way Ken be trying got me yelling out like a dream house. Yelling out, we ain't selling out. We got money, but we ain't lending out. We got bars, but we ain't billing out. And that pink Ferrari, we peeling out. I told Tay, bring the Bob Dylan out. The poop's so cold, we just chilling out. Baby, yelling out.
Le
Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.